Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Mario Malouin, l'un des doyens de la bande dessinée québécoise qui, en 50 ans de carrière, a notamment fondé le magazine Plouf et cofondé le mensuel humoristique Safarire, en plus de signer de nombreuses séries à succès dont Guerre et paix, Au pied du grand totem et Shérif Babette. Mario Malouin, salut!
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien toi-même?
Ben oui, ça va bien.
Espèce de jeune pouce de la bande dessinée québécoise.
Ah, t'es gentil. Ah, mais tu sais que je me considère choyé. Hein. Je veux dire, je suis à la porte des 70 printemps. Là. Puis, je suis encore en forme. J'ai envie d'en faire. J'en mange. Là. Puis, bon, les mains sont encore bonnes. La pensée n'est pas pire. Je pense que je suis capable d'aligner une pensée, une réflexion. Puis j'ai envie de faire de la BD, puis tu t'améliores, enfin je pense, avec le temps. Puis quand tu commences à être bon, là, ça se rapproche que tu sois plus capable de dessiner, là, parce que t'as un tremblote, quoi que ce soit.
Ouais.
Je me considère choyé.
Ben, en tout cas, en te lisant, Mario, on sent que non seulement ton crayon est bien affûté, mais ton esprit aussi. Hein?
Ouais.
Et je dis ça parce que t'es quand même un des doyens de la bande dessinée québécoise. Là. C'est plus de 50 ans de carrière. Là.
54 en octobre.
54. Parce que, en fait, moi, je chiffrais ça à 51 parce que pour moi, un des moments, en tout cas, un des moments forts du début de ta carrière, c'est la mise sur pied du magazine Plouf, qui remonte à 74.
Ouais. Mais sais-tu, quand j'ai commencé en 71, j'ai même une preuve de publication souvent que je m'amuse à montrer. En 71, je me présente petit cul, j'avais 15 ans, à un hebdo dans mon coin de la Sainte-Foy. Puis le monsieur, il a acheté ma bande dessinée. Il l'a vraiment acheté. Tu sais, il me publiait à toutes les semaines. Ça a duré 2 ans. Je veux dire, un début de carrière où tu es déjà publié, tout mon argent de poche où j'ai commencé à m'acheter plein de BD, là, c'est là que je l'ai fait. Puis, je faisais de la BD. En 2 ans, j'ai évolué comme déjà, c'est pas possible. Donc, je peux pas. C'est vraiment un début de carrière. Là, 71, d'aborder les hebdos. Puis là, après ça, j'ai publié dans un autre hebdo qui était son concurrent. Puis, ça a continué. Puis là, la suite des hebdos, ça a été le magazine Plouf que tu viens de souligner. Là.
Ouais.
Moi, j'ai jamais vraiment arrêté là, à partir de ce moment-là. Puis, hey, j'avais 15 ans, j'étais encore à l'école.
Mais c'est fou parce que on perd de vue ça, mais quand on te relit et qu'on remonte le fil du temps, on se rend compte que rapidement, tu es devenu un artiste entrepreneur.
Oui. Oui.
Et on le sait que dans les années 70, cette période faste qu'on appelait le printemps de la bande dessinée québécoise a vraiment été le théâtre d'artistes entrepreneurs, de groupements qui ont lancé des magazines, qui ont lancé des structures éditoriales. Et tu sais, je relisais Plouf, c'est quand même incroyable. Donc, magazine que tu lances à la fin des années, à la fin de l'année 1974, dans lequel on retrouve également Serge Gaboury et André-Philippe Côté. Quand on relit ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Et ce que je trouve fou là-dedans, Mario, c'est que dès tes premières planches publiées dans Plouf, bien que, évidemment, ton travail a largement évolué, mais on retrouve là des moments distillés de tout ce qui compose ton univers graphique puis ton univers d'auteur de bande dessinée. Donc, ton penchant pour les monstres, ton coup de crayon pour la caricature aussi, parce que tu es capable de croquer une tronche en quelques coups de crayon. On retrouve aussi des thématiques dès le départ. Au pied du grand totem, la naissance, c'est dans Plouf, avec l'homme gros, ben, pas Cro-Magnon, mais attends, là, je veux bien
gros.
Le...
Cro-Magnon, en fait.
Cro-Magnon, voilà.
Déformation de Cro-Magnon.
Oui. Alors, c'est complètement fou
de
voir ça et de sentir... Et c'est fou... Et c'est pas pour rien que je le disais d'entrée de jeu, c'est que ton esprit et ton crayon est toujours aussi affûté et on sent cette passion dont tu parlais. On te lit dans Plouf à tes débuts, on te lit aujourd'hui et on sent cet amour du médium-là intact. Ouais.
J'ai vraiment toujours aimé la bande dessinée, c'est assez incroyable. T'sais, autant comme collectionneur, puis je suis toujours la mâchoire à terre quand je tombe sur un album d'un auteur, peu importe d'où il vient dans le monde, là, qui me fascine. Puis la bande dessinée, on sent que j'ai quasiment de la pitié pour les gens qui lisent pas de bande dessinée, là. Tout ce qui manque. C'est incroyable. Moi, j'ai des frissons des fois en sortant d'un album. Une lecture là, terrible. Tu sais, puis j'ai eu des auteurs phares là, dans ma vie que j'ai suivis tout le long, là, tu sais, comme André Franquin, je peux pas le cacher, là, c'était un modèle. Tu sais, puis il y a eu mes Marcel Gottlieb après, là, puis moi, j'ai eu la chance unique de connaître Gottlieb, tu sais, au point de le saluer dans plusieurs rencontres quand il est venu au Québec. Puis ça a amené, à force de discussion, puis aucun favoritisme quelconque, là, à publier dans Flûte glaciaire. Tu sais, j'ai eu quand même une planche, j'ai publié dans Flûte glaciaire.
Oui, et là, rafraîchis-moi la mémoire, c'était bien une planche de guerre et paix, hein, en
Exactement.
quatrième de couverture. Alors, ce qui
Exactement.
fait de toi un des rares Québécois, avec Jimmy Beaulieu, à avoir publié une planche dans Flûte glaciale et d'avoir également publié dans le journal Spirou, c'est quand même pas banal. Et bon, évidemment, à Flûte glaciale, il y avait Patrick Moirel, qui, après
Oui.
son passage au Québec, accro et retourné chez lui. Puis bon, évidemment, il y a eu la trop courte carrière qu'il a eue parce qu'il est décédé jeune, mais quand même. Et donc, c'est quand même pas banal, ça, d'être publié. Tu sais, j'imagine que pour le jeune garçon que tu étais, lecteur à l'époque, tu sais, de t'imaginer qu'un jour, tu aurais une planche de publier dans Flux glacial, que tu aurais une collaboration dans Spirou, c'est quand même pas banal.
Ah non, non, puis non, honnêtement, tu mets le doigt exactement sur la chose, hein. C'est que j'étais un fan de tous ces magazines-là. J'ai été formé à mes lectures Spirou, Tintin, Pilote, là. Et Fluide après, c'est parce que Fluide est arrivé plus tard quand même. Puis tu te dis, wow, je vais être là. Un de ceux avec lesquels j'ai commencé, c'est Spirou. J'ai connu le journal Spirou même avant le journal Tintin, là. Puis je pense que j'ai jamais eu la pensée que je pouvais travailler là. Puis en fin de compte, j'ai eu une collaboration de 2 ans, là, tu sais, je veux dire, en tant que scénariste sur la
Oui,
série Astronautes.
avec
Mais,
Morin, oui.
ouais, mais Colin, ça demeure que j'étais en contact avec le rédacteur en chef, puis on discutait des scénarios acceptés, des scénarios refusés, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, je vivais vraiment la vie d'auteur de BD qui publie là-bas, là. J'en ai encore des frissons, rien qu'à t'en parler. T'sais, pour moi, c'est un beau souvenir.
Et tu sais, c'est une carrière faste que tu as eue. Tu as été et tu es à ce jour hyper productif. Je me suis amusé, mais j'ai abandonné parce que là, je veux dire, à un moment donné, j'aurais pu passer l'heure de l'entrevue à citer des collaborations, à citer les albums et les magazines auxquels tu as participé. Alors, je ne ferai pas la page Wikipédia, mais quand même, au début des années 80, tu commences à publier des albums, notamment une saison dans la vie d'Arthur Leroy qui est un pastiche de l'animateur radio décédé. Voyons, son nom m'échappe. Oui,
André.
André Arthur.
Oui.
Tu avais aussi, là je ne l'ai pas retrouvé, mais tu avais aussi un strip non, un album, pardon, à l'italienne avec une famille. La famille
Les beaux soleils.
Les Beaux Soleils, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu mets le bras dans l'engrenage de la publication d'albums. Et par la suite, je veux dire, c'est...
Tu sais, tu parlais d'Arthur Leroy, là, la parodie d'Arthur. C'est en 84 que l'aventure se fait. Bon, je n'expliquerai pas tout le cheminement, là, mais ça a été quand même. Bon, c'était entendu avec lui, là, tu sais, on faisait un truc, là, puis lui m'appuyait. J'ai eu donc une espèce de promotion, tu sais, dans le sens où il en parlait à radio. Puis André Arthur, c'était la grande gueule de l'époque. J'ai eu une publicité comme jamais je n'aurais rêvé dans ma vie. Puis tu sais que j'étais l'éditeur de cet album-là. Ma maison d'édition a commencé là. Puis c'est un album qui a vendu 10 000 exemplaires. On a tiré 10 000, on a vendu 10 000.
Wow!
À
Bien,
l'époque, là,
OK.
c'était, regarde, c'était 9 800 de plus que la moyenne. Tu sais,
Ouais.
on n'existait pas, on vendait rien. Quand quelqu'un faisait tirer un album, il espérait que sa famille en achète tout un là, pour qu'il en vende au moins une cinquantaine pendant le lancement. Là, j'ai l'air méchant, je ne suis pas là. Je parle des faits, là. C'est que dans les années 80, début des années 80, la BD, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, là. Je veux dire, déjà, les Réal Godbout de ce monde existaient, Pierre Fournier, tout ça. Mais on était tous à un point où on rêvait de l'album, mais il y a personne qui vendait, là. T'sais, puis les distributeurs voulaient rien savoir de nous autres, là. Je veux dire.
Ben non, d'ailleurs, je veux dire, le magazine Crow, quand ils ont lancé la première salve d'albums, Jean Curtubis, il n'est pas passé par les librairies, il est passé par les dépanneurs là où était vendu le magazine Crow. C'était logique à l'époque, là. Il n'y avait pas d'autre moyen de rejoindre les gens.
Exactement.
Et d'ailleurs, en 87, tu sors de l'aventure, et après ça, très, très longtemps, mais tu as été un des cofondateurs du magazine Safari.
Ouais.
Et non seulement un des cofondateurs, mais assurément un des visages et un des auteurs vedettes de ce magazine-là, parce que tu es là dès le numéro un, là.
Oui, tu sais, on a fait toutes les réunions préparatoires, là, un gros 6 mois avant qu'on lance le premier numéro. Là, je veux dire, on a été vraiment des membres fondateurs. Là, tu sais, on était 5-6 dessinateurs. Puis, à un moment donné, on a donné le rôle à Sylvain Bolduc, là, qui était aussi un dessinateur, de devenir l'éditeur, parce que ça, lui, il avait une espèce de formation de comptable. Là. En tout cas, lui, des chiffres, ça allait, mais nous autres, on était une gang de gogos qui ne savait pas aligner deux chiffres en arrière de l'autre. Ça fait que, bon, ça a pris quelqu'un qui, lui, a pris sa passion du dessin, puis il l'a mis de côté, puis il est devenu l'éditeur. Tu vas dire qu'aujourd'hui, il a bien fait, parce que, bon, lui, il vit bien, puis nous autres, il faut qu'on continue à chercher des possibilités de publier ailleurs. Lui, il a fait de l'argent, ça fait rire. Là. Mais je dénigre pas, je regarde, tout ça, c'est beau parce qu'il a fait une belle business avec sa famille, il a fait une grande chose. T'sais, mais nous, on était les créateurs qui ont fondé ça, puis on avait une envie de faire quelque chose. Là. Puis lui avait une volonté, puis il l'a tenue, puis je pense qu'il avait raison, c'est qu'on soit aligné comme étant un magazine du mot. Nous autres, on l'aurait rempli de BD, mais lui voulait qu'on fasse de l'humour illustré aussi parce qu'il fallait qu'on soit plus varié. Je pense que ça a été la force de Ça fait rire, c'est d'avoir des BD choisis et d'avoir de l'humour illustré. Fait que là, il y avait deux façons de se former. Tu sais, moi, j'ai autant fait de l'illustration pour Ça fait rire que j'ai fait de la bande dessinée. Puis, tu sais, une illustration avec un texte, là, que tu dois vraiment sortir le jus du texte pour avoir une image, c'est autre chose. Puis, ça, en même temps, c'est très formateur, c'est très bon pour l'esprit. Puis moi, je m'amusais énormément là-dedans. Là, tu sais, j'ai commencé à m'amuser même sur le net à vendre certaines illustrations de l'époque de Safari. J'avais gardé ça dans des boîtes, mais là, je commence à les sortir une par une. Donc,
Mais d'ailleurs, Safari, ça a été pour toi, en quelque part, ça a été aussi un tremplin, mais ça a été surtout, j'ai l'impression, un carré de sable extraordinaire. Parce que là, tu as testé beaucoup de choses, tu as lancé des séries de bandes dessinées. Écoute, moi, je dois te dire, Mario, que Guerre et Paix,
oui.
c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Et qui, je trouve, est intemporel. On y reviendra parce que là, depuis quelques années, tu artiste entrepreneur, tes albums, tu les édites toi-même. Et là, je me disais, avec tout ce qui se passe dans le monde, il me semble que Guerre et Paix, ne pourrait pas être plus actuel, qu'aujourd'hui.
Oui, alors je fais une parenthèse là-dessus. C'est dans mon ordre de publication. Mais Guerre et Paix, il y a un gros, gros problème qui n'en est pas un. C'est que c'est à peu près toutes des planches en noir et blanc. Puis moi, je veux faire un album en couleur. Ce qui fait que il est sur la pile de travail à mon épouse pour la coloration. Puis donc, il faut la faire. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça parce que les planches sont là. Puis ça va être un bel album de 80 pages.
Est-ce que tu serais tenté de faire aussi de faire du matériel inédit?
Il y en a déjà un peu dans le sens où j'ai fait une planche pendant la COVID. J'ai fait non, trois planches, excuse, pendant la COVID, que j'ai publiées sur le net. Il y a eu une autre planche qui avait été faite pour. Encore quelques planches qui n'ont jamais apparu dans Safari, là, qui vont être là-dedans aussi. Moi, je ramasse de toute façon, quand je fais présentement là, mon espèce d'ambition de faire des publications patrimoine, c'est-à-dire que quand je lave un sujet, je passe un personnage, puis je publie toutes les planches qui ont été faites. Je m'amuse même souvent à sortir les illustrations que je faisais des fois pour annoncer l'album, quoi que ce soit, puis je les intègre dans l'album. Ce qui fait que c'est vraiment une totale. C'est quand l'album est publié, habituellement, il y a vraiment tout le matériel qui avait été produit autour de ça.
Bon, évidemment, moi, je ne peux que me réjouir. Tu sais que dans le cadre de mon travail, je m'intéresse beaucoup au patrimonial. Or, puis là, bon, comme tu m'ouvres la porte, allons-y directement et frontalement. Ces dernières années, tu publies des albums à compte d'auteur qu'on peut se procurer de deux manières, soit en événement,
Oui.
festival, salon du livre, lorsqu'on a l'occasion de te croiser, sinon, par le portail Amazon. Et tu fais vraiment un travail patrimonial, c'est-à-dire que, comme tu le disais, tu vas reprendre des bandes, insérer des illustrations promotionnelles et autres. Quand je lis ça puis que je regarde ça, je suis obligé de me poser la question, est-ce le travail de l'auteur de voir à son propre patrimoine? Parce que je sais que c'est une préoccupation. J'ai travaillé avec Pierre Fournier sur le livre qui est devenu, le livre qui est devenu, je l'ai fait sans Pierre à cause de la maladie, mais au point de départ, c'était un projet que je devais faire avec Pierre. Parce que Pierre voulait s'assurer, que son travail ne sombre pas dans l'oubli. Or, Mario, tu le fais. Est-ce que c'est véritablement le travail de l'auteur de faire ça? Est-ce que tu le fais parce que y a une difficulté de trouver une structure éditoriale qui voudrait s'en occuper? Dis-moi la raison pour laquelle tu t'en charges toi-même.
Il y a peut-être quelques raisons qui répondent à ça. La première des choses, bon, ça serait de trouver l'éditeur qui a envie de me suivre dans une direction patrimoine, c'est-à-dire de présenter des albums, dans une séquence quand même assez respectable, là, qu'il y ait pas trop de distance entre chacun. Parce que entre autres, les éditeurs, ce que j'ai à leur reprocher, hein, c'est qu'à un moment donné, tu lances un produit. Puis que si le produit vend pas les millions de copies qu'ils espéraient vendre, après ça, ils sont un peu indifférents à toi pour la suite des choses. Tu sais, je veux dire, tu finis par même plus avoir de réponse au téléphone quand tu essaies de les appeler, là. Tu sais, j'ai vécu ça, entre autres, avec Donna Tout le Monde, un personnage qui a été publié chez Glénat Québec il y a quelques années.
Oui.
Bon, Donna, il y avait trois albums de prévus. Ben, les deux autres, là, regarde, à la fin, j'avais même pas de réponse pour savoir, puis qu'est-ce qu'on fait, ou savoir ce qu'on s'en va avec ça. C'est parce que Mondona, c'est un personnage qui était une espèce de politicien indépendant. Puis le premier album, il se fait élire. Dans mon deuxième album, il y aurait eu une campagne politique, il y aurait une campagne de. Puis le troisième album, il serait devenu premier ministre, un indépendant premier ministre, je m'amusais. Ça fait que. Mais ça n'a jamais vu le jour. Puis tu sais, à force d'avoir des dialogues de même avec d'autres personnes, j'ai eu envie de faire publier mes affaires. Puis ce que je voulais aussi, là, j'ai toujours une espèce d'urgence que tout le monde rit de moi que je dis ça, mais là, l'âge avance, hein? J'ai un certain ordre, là. Tu sais, j'ai déjà des albums de prévus jusqu'en 2032.
OK.
J'espère me rendre là. Puis ces albums-là sont dans un ordre très serré, là. C'est un ou deux par année. L'éditeur me suivrait pas là-dedans. Tu sais, ça fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Puis le recul, j'en manque peut-être en étant auteur. Mais en même temps, j'ai toute la connaissance de l'auteur parce que c'est moi. Tu sais, je veux dire,
Ouais.
j'ai des choses à dire. J'ai toujours une présentation au début de l'album pour mettre les choses en contexte la plupart du temps. Puis même des fois, je les mets dans un contexte qui est pas avec la série, c'est-à-dire où ça a été publié, puis les problèmes que ça a pu rencontrer au fil des années, là. Ça fait que.
Il faut le dire, hein, Mario, tes albums, comme par exemple Tranche de ciné, les deux premiers volumes qui reprennent tes pastiches, tes parodies de films qui étaient publiés dans Safarir, entre autres, c'est des albums cartonnés couleur, là.
Oui.
On est dans la forme très classique, élégante. Ce sont vraiment des beaux objets, là. C'est des beaux produits, qualité de papier, tout ça. Et donc, dans le fond, c'est de l'impression sur demande sur Amazon. Les gens qui veulent tes albums, soit, comme je le disais, ils peuvent te les acheter en événement, mais pour des gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer, ben à ce moment-là, ils commandent directement par Amazon et donc, ça leur est expédié par la suite.
Ah, c'est incroyable, hein? Il imprime un album pour le client. Un album. Puis il envoie, là. Puis il a la même qualité que ceux que tu as dans les mains, là. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Tu parles d'un système, là.
Ben, c'est que, en fait, Mario, un des enjeux des éditeurs, puis tu sais, on en parlait, le fait que des éditeurs sont tièdes, ou en tout cas, des fois, ils embarquent sur un projet, puis ils donnent pas suite. Je sais qu'un des enjeux chez les distributeurs, chez les éditeurs, c'est l'entreposage de livres. Et il y a un moment où le pilonnage arrive parce que tout à coup, ça coûte trop cher d'entreposer des livres qui ne vendent pas puis qui circulent pas. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'il y a tellement de nouveautés en librairie, et tu le sais, tu l'as vu, toi, là, tu as été témoin de ça. Quand tu disais tantôt que dans les années 80, il y avait très, très peu d'albums québécois, ben là, aujourd'hui, si on parle manga, album européen, album américain, album québécois, l'espérance de vie d'un album en librairie, c'est quelques semaines tout au plus, là, avant, en façade, avant d'aller dans le rayonnage et avant, ultimement, d'être retourné au distributeur. Donc, c'est un enjeu, ça.
Oui.
De conserver les livres en entreposage. Et donc, avec Amazon, ce qui est quand même particulier, c'est que l'impression sur demande, comme tu l'expliquais, si on te fait un livre et on te l'envoie.
Ouais. Puis, tu sais, j'ai un avantage numéro 2. Amazon, c'est gros, hein. Bon, puis ils sont partout dans le monde. Ça fait que mon album, il est en français, tu sais, bon, puis il y a pas de traduction. Mais ça demeure qu'il est disponible dans 156 pays. Moi, j'ai même sur ma plateforme, tu sais, quand tu mets un album chez Amazon, il y a toute une nomenclature à répondre puis à régler, là. Je veux dire, jusqu'au prix de l'album, au prix de vente de l'album, c'est moi qui le décide. Je veux dire, ça va jusque-là, là. Mais je choisis aussi les pays où je veux être tenter une diffusion. Puis, je dois mettre la vente en argent du pays. Donc, je veux dire, moi, j'ai travaillé en yens, mais je travaille en tour d'affaires. Je suis même vendu en rouble. Mais c'est fun. Mais sais-tu que ce qui est fascinant, c'est qu'une fois de temps en temps, j'ai un petit rapport d'Amazon. Puis, ah, j'ai vendu une copie au Japon. Ah, j'ai vendu une copie en Corée. Ah, j'ai vendu une copie en Russie. J'en ai vendu en Russie, c'est bête. Hein. J'ai un lecteur assidu en Angleterre. Aux États-Unis, quand même pas mal, étant donné qu'Amazon, c'est américain. Ça fait que. Puis ça, il y a des francophiles partout dans le monde. Hein. Là, moi, ce que j'envisage éventuellement dans mon entrepreneuriat, si on peut dire, c'est de peut-être me faire une traduction de mes albums après. Mais je vais commencer par publier les affaires que je trouve importantes qui sortent en français. Puis après ça, je vais commencer à regarder dans la traduction. Donc là, un album en anglais, je pense qu'il travaillerait pas mal fort chez Amazon d'une autre façon. T'sais, je sais qu'il y a des Américains, entre autres, qui aiment beaucoup mon style, mais peut-être que ça les rebute que ce soit en français. T'sais, je veux dire, ils ne se procureront pas un album en français juste pour ça, quoi qu'il y en a qui doivent le faire, parce que j'ai des ventes. Mais c'est ça. T'sais, là, c'est un autre sort. C'est fascinant à un certain point. C'est pas mon domaine, ça. C'est le marché, mais je me laisse emporter par ça parce que j'aime le livre, tout court. Tu sais, je veux dire, tu dois être comme moi. Tu sais, ouvrir un livre, sentir l'encre, il n'y a rien de plus fun que ça,
Ah ben non, c'est sûr. Ben là, c'est sûr et certain que tu parles à un convaincu,
là.
là.
J'ai toujours eu des collections. Tu sais, il y a des fois, j'ai été obligé de me départir de ma collection pour des problèmes financiers. Mais j'ai toujours une collection assez abondante, là, puis j'adore tout le temps relire mes affaires. J'ai des classiques comme tout le monde, là. Tu sais, ma série de Tintin puis d'Astérix, là, c'est régulier, je les relis. Mes rubriques à vrac, naturellement, de mon cher ami Gottlieb. Mais, tu sais, c'est un passionné, mais à tous les niveaux, là.
Et quand on parlait d'artiste-entrepreneur, bon, évidemment, il y a tout ce pan-là éditorial, mais il y a aussi à côté la présence dans les événements. Et donc, ça aussi, ça implique des déplacements, ça implique des dépenses. Faut tenir un kiosque. On s'est vu, nous, la dernière fois, au très, très pluvieux Festival de bande dessinée de Montréal
Oui.
en mai dernier. Donc, pour toi, c'est essentiel d'être présent dans les événements.
Raison à ça, OK? C'est
Ouais.
que ma carrière à Safari a duré 20 ans. Hein? On a parlé tantôt, là, ça a duré 20 ans, moi, dans les pages de Safari. Il y a été un temps où Safari avait une publication en France. On avait le Safari France,
C'est juste.
puis on avait le Not,
Oui.
Safari américain. Moi, j'étais des trois plateformes. Je faisais du matériel nouveau pour les trois plateformes. Et à l'époque, parallèlement à ça, je faisais la caricature éditoriale du 7 jours à toutes les semaines, puis je faisais la bande dessinée dans le TV Hebdo à toutes les semaines. Fait que t'imagines un petit peu que j'avais jamais le temps d'aller dans les salons du livre. Puis, ça fait que là, présentement, je vais rencontrer mes lecteurs. Tu sais, mes lecteurs ont vieilli, naturellement, mais je pouvais pas les voir avant. C'est 20 ans de comment dire? J'étais en carence.
En réclusion, ouais, là, enfin, tu
Enfin,
sors, ouais.
je sors. Ça fait que ça, c'est du plaisir, là, mais du plaisir pur. Tu sais,
Et
j'en connais.
qu'est-ce qu'ils disent, les lecteurs, Mario, quand ils te voient? Parce qu'ils t'ont pas vu pendant longtemps.
Ouais, tu sais, la première affaire, je suis content, c'est mon dessin qui parle. Moi, je suis installé sur une petite table, puis j'ai mes albums sur la table, puis moi, je suis pas un accrocheux, un vendeur de Fowler, là, tu sais, je veux dire, je laisse les gens agir, là. Encore en fin de semaine, j'ai fait un événement à Québec, il y avait un mini festival de la bande dessinée. Tout à coup, le monde passe, là. Oh! Ça ressemble à mes affaires, je voyais dans Safari, là. Là, après ça, le déclencheur est parti. Ça fait que là, je tombe sur un ancien lecteur qui avait absolument aucune idée qu'il allait me rencontrer un jour. Puis là, on parle, puis là, mais suite à ça, ben, habituellement, il achète un album, puis ben souvent, ils vont tout acheter le paquet. Fait que, puis c'est des gens qui, à l'époque, étaient adolescents, qui disaient ça chez eux, en cachette de leurs parents. Puis là, ben, maintenant, c'est des gens qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, qui ont des sous, qui ont une carrière avec eux autres, puis qu'ils sont capables de se procurer des affaires qui les a fait rêver quand ils étaient jeunes. Fait que je suis dans une belle période de ma vie, moi, là.
Et tu sais, tu parles de Safarir, non seulement tu l'as cofondé, mais une autre chose qui était très, très importante dans ton parcours et dans celui de la bande dessinée en général au Québec, c'est lorsque tu lances pour Safarir l'encart SAFBD.
Ouais.
Ce qui a permis à la fois à toute une génération de lectrices-lecteurs de découvrir des talents, mais aussi à une génération d'autrices, d'auteurs, de faire leur gamme et de se retrouver dans une section BD. Et il y a beaucoup de monde qui sont passés là quand même, là.
Oui.
Et donc, moi, tu vois, je dois te dire qu'au début des années 2000, lorsque tu lances SAFBD, la raison pour laquelle j'achetais encore ce magazine-là, c'était pour cette section-là, là. Parce que tout à coup, c'était passionnant de voir des Éric Thériault, de voir des Jacques Lamontagne, de voir plein de gens essayer des choses, lancer des séries, expérimenter. Je veux dire, les Nombris ont quand même commencé là, là. C'est
Ouais.
quand même pas banal, là.
Je vais te donner un petit topo, OK, de ce qu'a été SAFBD. Tu vas en comprendre encore plus avec ça, là. Le SAFBD, on arrive à une période charnière de Safari où il y a besoin de renouvellement. Tu sais, comme souvent un magazine, là, on a besoin de quelque chose. Bon. Puis moi, j'avais mon projet SAFBD depuis un bon moment, là. Je présente ça, puis eux autres, c'est arrivé comme ah oui, ça serait bien. Mais là, il y avait des choses que je tenais que ce soit fait, là. C'est-à-dire que le SAFBD, il se détachait. Pour moi, Ce magazine-là, il devait se détacher du Safari de base. C'est un 32 pages qui devait vraiment être devenir à part. C'est un supplément.
Ouais.
Puis on en est venu, après deux, trois publications, j'en étais le rédacteur. Hey, my gosh! Le rédacteur en chef. J'ai vraiment été le rédacteur en chef de Save BD. Je gérais la ligne éditoriale et tout. Puis bref, après deux, trois numéros, ils se sont rendus compte que ouf, plein, oui, ça marche. Au point où, à un moment donné, Sylvain Bolduc, l'éditeur, il a été un petit peu agacé. La Bibliothèque nationale se sont mis à le considérer comme un magazine à part. Donc là, il s'est
Ah
mis à
bon?
dire que je pyrannisais son magazine original. Là, regarde, j'ai jamais trop compris c'était quoi exactement, là. Mais il a commencé à avoir des craintes. Puis malgré tout, parallèlement à ça, on était en train, la gang de gogo qui me suivait et qui avait envie de faire de la BD, on était en train tranquillement de s'arranger pour qu'ils deviennent indépendants. Save BD était supposé, puis en entente avec Sylvain Bolduc, là, était supposé dans les mois qui allaient suivre devenir un magazine à part qui serait vendu à part. Puis qui aurait eu non pas 32 pages, mais 64. Mais moi, j'avais eu le OK là-dessus. Fait que là, j'avais commencé à faire des réunions. Là, je me souviens, on avait fait un à l'atelier Jacques Lamontagne une fois. Puis on s'excitait là-dessus. Là, on commençait à préparer du matériel et tout. Puis là, à un moment donné, de son côté, lui, ben, Sylvain Bauduc, il avait décidé qu'il avait envie de régresser, mais sans me le dire. Puis là, il s'est mis à publier le Save BD, non plus détachable, mais à l'intérieur du magazine. Tu ne pouvais plus l'enlever, tu sais, il était dans les pages. Ça fait que, tranquillement, pas vite, ça a dégénéré au point même où j'avais plus mon mot éditorial, tout ça. Tu sais, c'est une affaire qui est devenue poche, là, tout à coup, là, tu sais, ça a tombé. Mais c'était. J'avais accroché ce que tu disais tantôt, là, c'était exactement ça. Il y avait un tas de lecteurs qui avaient tellement eu du plaisir à découvrir que, oh, là, il y a un magazine avec la BD dedans, là, dedans. Là. Il était content. Tu sais, puis on savait que le monde aimait ça.
Parce que moi, à l'époque, les premiers Save BD, la comparaison que je ferais, ou en tout cas, ce que ça évoquait pour moi, c'était le trombone illustré. C'est-à-dire cette idée de, en parallèle du magazine, go, on y va, on se lâche lousse, on explore. Et pour moi, ça a été quelque chose de, je le répète, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Et j'ai l'impression que ça survit même au magazine. C'est-à-dire que les gens au Québec qui ont lu Save BD, qui aiment la bande dessinée, ben, quand ils pensent au magazine Safari aujourd'hui, je pense qu'une des premières choses qui leur viennent à l'esprit, c'est ça.
Puis tu sais, après, quand le SAVD a commencé à décliner, ça a sonné pour moi le déclin aussi, là. C'est-à-dire que moi, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à regarder ailleurs parce que déception. Puis déception très profonde, là. Tu sais, le SAVD, pour moi, c'était une belle affaire. Puis là, après ça, bon, puis là, une espèce de distance, on dirait, pour se protéger de moi, là. C'est que là, j'avais de moins en moins de sollicitations ou des chroniques et tout. Ça fait que là, j'ai commencé à regarder ailleurs. C'est là où est venu tranquillement, pas vite, les ponts se sont faits entre moi et le magazine des livres, qui était le compétiteur, mais pas vraiment compétiteur, parce qu'ils n'ont jamais été compétiteurs de Safari, eux autres. Ils auraient pu tellement prendre de place, puis ils ne l'ont pas fait, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, la fin de sa BD, ça a été le déclenchement de mon préparation de mes valises pour m'en aller, moi aussi, là.
Est-ce que tu crois, Mario, parce que, tu sais, dans les années 80, Jacques Urtubiz, en parallèle de Cro, va lancer Titanic, une revue entièrement consacrée à la production québécoise qui va durer 12 numéros. Ça a été un gouffre financier, dans une certaine mesure. Ils ont dû arrêter après 12 numéros. Pour moi, Save BD, c'est 20 ans plus tard. Le milieu a quand même changé de la bande dessinée. Au début des années 2000, il y a de plus en plus d'artistes locaux qui exportent leurs talents, soit chez nos voisins du Sud, soit en Europe. Il y a toute une percée. Tout à coup, il y a des structures éditoriales qui émergent. Le milieu est complètement différent du début des années 80. Alors, c'est d'autant plus étonnant que Saf BD, cette idée d'indépendance, soit mort dans l'œuf. Et tu me l'apprends, là.
Ouais, sur par peur. Aussi bête que ça, c'est bête.
Ben oui, mais bon, ça t'a quand même pas empêché, toi, de poursuivre. D'ailleurs, le fait d'avoir été si longtemps associé au magazine Safarir, est-ce que dans ta carrière, lorsque tout à coup, tu as élargi tes perspectives, tu parlais du magazine Délire, est-ce que ça a été est-ce que ça a été difficile pour toi, ou au contraire, les portes s'ouvraient justement?
Mon Dieu, comment dire? C'est que ça fait rire, ça avait été. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, là, mais ça a été un magazine qui a marché terriblement fort. Puis on était bien payé. On était bien payé. Ça pouvait aller de 300 à 450 la planche. Puis là, on parle des années 90. Ce qui fait que moi, en plus, j'avais la caricature à 7 jours, la bande dessinée dans TV Hebdo. J'avais pas à me plaindre, tu sais. Puis là, tout à coup, c'est financièrement que ça a commencé. Délire, ça payait pas très bien. Puis, les gens se souvenaient de moi, j'étais sollicité, mais il fallait que je fasse attention financièrement. Puis, j'ai toujours eu un espèce de contrat tacite avec mon épouse, là. C'est que mon métier de fou devait pas mettre dans le trouble ma famille. Jamais, jamais. OK? Fait que si à un moment donné, on devenait précaire, ben j'aurais fait autre chose. T'sais. Fait que là, j'essayais. Puis, tu sais, il y a eu l'émergence un peu plus tard de la maison d'édition Glénat Québec, entre autres. Bon, puis je commence à cogner à la porte. Les premiers albums ils ont donné un avaloir relativement intéressant. T'sais, un avaloir pour les auditeurs, c'est une avance sur l'album. Ça aide à le produire, là. Mais ça n'a pas duré, ces périodes-là. T'sais, ça fait qu'à un moment donné, c'est que c'est beau de te faire offrir des trucs, mais ça va peut-être payer. Puis si ça paye en droit d'auteur, ça demeure que les droits d'auteur sur un album, même si un album fonctionne bien au Québec, 1 000, 2 000 exemplaires, là, okay? Puis que tu reçois en droit d'auteur 1 $ ou 2 de la copie, 2, c'est même au maximum. C'est pas avec ça que tu vas vivre ton année, là. Tu sais, je veux dire, c'est. Puis tu vas avoir pris un an à dessiner, là. Tu sais, ça fait. Là, je suis terre à terre en disant tout ça, mais tous ces facteurs-là sont arrivés après que j'aie vécu, là, dans la Cadillac, là, avec Safari, je n'avais pas me poser de questions. La seule question que j'avais à me poser, c'est de rester en forme. Tu sais, je me levais à 7 heures le matin, je m'installais dans mon atelier à dessin, puis je sortais de là à 10 heures le soir, là. J'avais des journées épouvantables. Mais j'adorais ça, là.
Mais il faut dire aussi que le milieu du magazine au Québec, ça fait quand même longtemps que c'est difficile. Tu sais, je veux dire, Cro est disparu en 1995. Il y a eu beaucoup d'initiatives de magazines qui sont arrivées, mais qui sont parties. Je me souviens de Pignouf, le magazine jeunesse là, au milieu des années 90. Là,
Ouais.
Yves Rodier était de cette aventure-là. Ça a duré quoi, 6 numéros? Tu sais, combien qu'il y en a eu de tentatives de magazines en bande dessinée qui malheureusement n'ont pas su perdurer? Parce
Ben,
que
tu sais,
juste.
quand on a lancé Safarir, là, c'était la même chose, hein. On s'attendait absolument pas à ce que ça fonctionne. Parce qu'on avait justement cette carte de route-là, là, derrière nous autres. C'est-à-dire qu'on les voyait, les autres magazines, qui n'avaient pas percé. Mais tu sais, c'était une volonté de publier. Naturellement, chacun avait son gagne-pain ailleurs, là. Mais puis au bout de 6 numéros, tout à coup, on se rend compte que oh, on est rendu à 10 000 ventes. Tu sais, on ne s'entendait pas d'en vendre tant que ça. Tu sais, les premiers numéros de Safarir, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Mais puis là, bon, puis là, plus ça allait, puis là, tout à coup, on commençait à avoir des sous. T'sais, mais ça fait rire, ça n'a pas été une explosion numéro un, là. Mais ça a marché, puis on ne sait pas pourquoi. Il y avait le besoin à ce moment-là, je sais pas. C'est assez incroyable.
Ben, oui, ça a monté quand même, ça a pris quelques années, mais je veux dire quand même, Safarir, dès le début, vous avez eu quand même une forte visibilité médiatique. Moi, je me souviens d'avoir vu des reportages à la télévision sur Safarir, je me souviens qu'on en parlait à la radio. C'était quand même monumental à l'époque, un nouveau magazine, là.
Ouais.
Et Et donc, tu vas poursuivre ta carrière. D'ailleurs, tu as été quand même célébré relativement rapidement. Hein? Tu as gagné un prix Bédis Causa pour l'ensemble de ta carrière en 1988.
Ouais. Ah oui.
Alors que, je veux dire, il restait encore à ce jour beaucoup de choses à l'avant. Tu as reçu le prix de la reconnaissance en bande dessinée de la Ville de Québec en 2023.
Ah, ça fait du bien, ça.
Ben, j'imagine, hein?
Oui. J'ai ouvert le prix avec eux autres en plus.
C'est vrai,
Ils m'ont
oui.
désigné comme le premier. Tu sais, c'est comme. Ah, mais tu sais, à quelque part, il y a de l'opportunisme là-dedans. On se le cachera pas, là. C'est que la Ville de Québec, le département de la culture, si on peut dire, ils se rendent bien compte depuis quelques années que la bande dessinée québécoise, c'est plus le petit truc embryonnaire qu'on a connu dans les années 70. Faut commencer à regarder ça avec du respect, là. Tu sais, on a pas mal de monde qui publie sur le mondial, là. Tu sais, je veux dire. Je veux pas en oublier, mais tu sais, des Jacques Lamontagne, des Denis Rodier, des Ravel Diatti, je veux dire, tous ces gens-là, il faut les regarder avec respect maintenant, là, je veux dire, excusez-moi, pardon, mais la bande dessinée, c'est plus ce que c'était, là. C'est plus un petit... Fait que donc, la Ville a voulu se mêler à ça, puis j'en suis bien fier, là, je veux dire, dans le sens où puis le prix se renouvelle d'année en année, là, tu sais, je veux dire, on est rendu au troisième cette année avec André Philippe. Tu sais, c'est tant mieux. Tu sais, puis la maison de la BD sur le chemin Sainte-Foy à Québec, là, si quelqu'un a l'occasion d'aller faire un tour là, c'est pas un petit local de rien, là. Je veux dire, c'est un truc dans lequel tu rentres, puis la bande dessinée québécoise est là, là. Il y a deux, trois expositions permanentes, il y a de l'animation en continuel, on peut faire des lancements quand on veut. Puis c'est une maison superbe en plus, architecturalement parlant.
C'est quand même fou parce que tu as été à la fois acteur et observateur de toute cette évolution-là depuis tes débuts en 1971. Je veux dire, est-ce qu'à un moment, tu te souviens de t'être dit qu'un jour, c'était une possibilité que ça arrive au Québec?
J'espérais, mais moi t'avoue, non. Ça a pris du temps avant de croire que ça pouvait arriver fort de même. Tu sais, quand j'étais jeune, mon père était dessinateur. Hein? Mon père était dessinateur publicitaire. Il faisait des dessins pour les compagnies. La publicité dans les journaux, dans ce temps-là, tu prenais pas de la photo, c'était pas beau. Fait que tu faisais dessiner tes produits que tu voulais vendre. Bon, puis mon père faisait ça. Puis, il recevait un manteau sur le tour de fer. Bon, il dessinait le manteau, il le mettait en évidence, puis son dessin il était utilisé pour la publicité. Fait que moi, j'ai navigué dans son atelier très jeune. Puis quand j'ai commencé à leur dire à mes parents, quand j'étais à l'école, que je voulais devenir auteur de bande dessinée, même si mon père était dessinateur, il a commencé à avoir des nuages noirs dans leur visage. Tu sais, je disais, oups, tu sais, il y avait des craintes pour moi. Tu sais, mon père, il essayait de me pousser vers l'architecture, il dit, au moins ton dessin va te servir à quelque chose d'utile. Mais la bande dessinée, ça les effrayait. Là, tu sais. Fait que là, quand j'ai rencontré ma blonde, je lui ai dit, je fais de la bande dessinée, mais j'en vivrai jamais. Puis là, ben, on s'est mariés. Ça allait plus ou moins, mais tu sais, je veux dire, parallèlement à ça, j'avais développé quand même un métier. J'étais aussi imprimeur parce que Plouf m'avait amené à ça. Parce que Plouf, je l'ai imprimé. C'est moi qui l'ai imprimé chez nous. Ça fait que j'étais imprimeur, mais donc c'était divisé en deux. Il y avait de la BD, puis il y avait l'imprimé. Puis, mais je ne m'attendais jamais seulement de vivre la BD. T'sais? Puis ça a été avec l'aventure Safari. Je pense que c'est là que j'ai pu commencer à réaliser. Mais encore là, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'espérance internationale à l'époque. Safari, on avançait. Dans les années 90, 91, quand le Festival de la bande dessinée avait déjà commencé, qui nous amenait des auteurs étrangers, on était en contact avec eux autres. Puis moi, la journée où j'ai rencontré Gottlieb, je pense que je n'ai pas été capable de dire un mot. Là, je veux dire, c'était du. T'sais? Puis lui était là, puis il lisait les SAF qui étaient là, puis il accrochait juste sur mes parodies. C'était fun, ça. Puis il s'amusait avec sa fille Ariane à reconnaître les personnes dans les parodies de cinéma. Je dis, bon, OK, il s'amuse avec mes affaires. Moi, j'en revenais pas, je vous avais tombé à terre. Mais là, ça m'a ouvert le chemin à penser qu'il y avait peut-être des possibilités. Je me suis mis à y présenter des dossiers. Mais c'est toujours une espèce d'inquiétude de Québécois qui ne peut pas arriver, là. T'sais, puis qui, dans le fond, ça a fini par se faire, mais t'sais, on a toujours peur d'être bon. Là. Ça fait que. Puis là, à un moment donné, boum. Puis moi, je me souviens, Gottlieb avait fait une entrevue avec TV5 à un moment donné. Puis le gars de TV5, il a demandé carrément, il dit, pourquoi vous avez publié Bon Loin? Puis là, Gottlieb le regarde. Il dit, parce qu'il est bon. Ça m'a. Là, le monde s'est arrêté, là, la Terre a arrêté de tourner.
Hey, ça vaut tous les trophées du monde, hein?
Ah, c'est incroyable. Non, non, c'était le fun. Puis, mais c'est le contact de ces gens-là qui sont devenus des amis, là. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ben, il y en a qui sont décédés, là, mais je veux dire, il y a des gens qui sont devenus des amis, là, au travers de ça. J'ai été, entre autres, un très, très copain avec François Cortelgiani, qui est décédé d'un arrêt
Ouais.
cardiaque il y a 2 ans. On était en train de préparer un album. François est en train de m'écrire le scénario. On se préparait à faire un album. Oui. Mais ça, c'est pas fait. On avait même plusieurs projets parce qu'on avait même déliré autour de Popeye, les droits d'auteur étaient devenus du domaine public, là, allaient devenir du domaine public. Puis on avait envie
Ah.
de faire notre Popeye, là, comme c'est Glénol l'a fait avec Mickey, là, à un moment donné.
Ouais, tout à fait.
On avait envie de faire notre Popeye. On était deux vieux accros de Popeye, là, puis ça se parlait, là.
Wow.
Mais c'est ça. Mais c'est là où tu as l'impression d'être dans la vraie affaire. Là, t'sais. Mais pas quand j'étais jeune. J'étais jeune, je ne pouvais pas sentir que ça allait être potentiel de rêver de faire une BD ailleurs qu'au Québec. Je ne pensais pas. C'est venu avec le temps. T'sais. Puis quand les auteurs européens venaient ici, puis ils disaient, hey, ça ferait cette fois notre affaire. Puis là, mais quand après, ça ferait bien en France, ça a été publié. Là, ces auteurs-là arrivaient avec leur salle BD, leur salle de France, là. Ils disaient, hey, ils amenaient leur magasin, ils nous faisaient faire des dédicaces.
Ah ouais,
C'est quand même.
hein?
Mais c'était. Ah non, c'était quelque chose.
En marge de ta production actuelle, où tu te consacres à, comme on parlait, à ton projet patrimonial, tu continues quand même des collaborations. Ça a été le cas de l'album en 2022, Ensemble contre la COVID. Et dernièrement, avec le tome 1 d'une nouvelle série, La naissance d'Henri. Donc, un album co-scénarisé avec Samuel Côté, qui est un album, c'est vraiment étonnant quand on lit ça, parce que bon, ça s'intéresse, c'est sur les fonds marins québécois, parce que bon, Samuel Côté est un océographe, Ah! Alors voilà, je suis obligé d'avouer que même si je suis ultra préparé, j'avais pas pris soin de noter ça. Mais bref, Samuel Côté, documentariste, auteur, conférencier, qui se consacre aux fonds marins du fleuve Saint-Laurent. Et
Il
donc,
était chasseur d'épaves.
chasseur d'épaves, voilà.
Ouais.
Et donc, cette série-là, qui est un album, qui est une série que je pourrais dire, je déteste utiliser ce terme-là, mais à défaut d'en trouver un meilleur, mais une série très grand public, c'est-à-dire qui peut être lue autant par des jeunes que par des vieux schnocks comme moi, qui est vraiment dans le sens classique de l'aventure et album dans lequel on apprend beaucoup de choses aussi, et où ton dessin, encore une fois, et où tout ton talent et ton métier est mis à contribution. Il y a quand même beaucoup de travail dans cet album-là. Tu as fait tes devoirs, là. Il a fallu que tu ailles faire de la... Il a fallu que tu fasses de la recherche visuelle. Il a fallu que tu... Je veux dire, c'est pas un album que tu as fait en 2 jours, là.
Non, non, non. Puis il y a des choses là-dedans. Là. Ben, tu sais, Samuel a été d'une aide incroyable là, parce que c'est son monde, c'est son univers. L'exploration d'une épave. Tu sais, l'épave qui est là dans l'histoire, naturellement, elle existe. Là. Mais elle n'a jamais été explorée parce que elle est trop profonde dans le fleuve Saint-Laurent. Ce que j'avais comme image pour la dessiner, c'était. Un radar qui prend des images, non, c'est pas des images, c'est un sonar qui nous donne la forme de l'épave dans le fond de l'eau, mais en couleur, avec des couleurs. Tu sais, j'avais comme un bip-bip j'avais pas vraiment une illustration de l'épave dans le fond de l'eau, mais j'avais ce truc-là, là, qui montre en couleur, avec des couleurs, la structure du vaisseau lui-même dans le fond, sans voir les détails. Puis là, moi, ben, j'ai eu à figurer, ben, à imaginer ces choses-là. Là, ben, avec Samuel, on a regardé d'autres épaves qui avaient été explorées. Qu'est-ce que ça donnait à peu près? Comment, quand les coquillages collent sur la coque et tout, qu'est-ce que ça a de l'air? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se détériore là-dedans? Puis là, mais à partir de ça, moi, j'ai extrapolé. Ça a été un autre. Tu sais, intellectuellement parlant, ça a été un travail incroyable, puis bien fun. Bien, bien fun. Tu sais, c'est une belle aventure, ça, Henri. C'est une autre affaire. On pourrait en parler longtemps. C'est une aventure éditoriale qui, hélas, parce que tu parles de l'album, mon ami Pierre, qui a été Pierre Lachance, qui est l'éditeur de l'album, mais qui est aussi le propriétaire du robot. Parce que le personnage central, c'est un robot explorateur. Naturellement, nous, on a mis un petit peu de fantastique parce qu'il fallait qu'on développe notre personnage pour qu'il soit équivalent vivant. Là, t'sais, bon, moi, il jase avec le propriétaire. Mais Pierre s'est lancé dans l'aventure. Il a fait imprimer l'album. Il y en a 2000 exemplaires dans la cave chez eux. Puis là, mais il cherche un diffuseur. Puis comme il est éditeur indépendant qui commence, il est tout seul. Les distributeurs présentement ne sont pas intéressés à prendre son contrat. Il faudrait qu'il y ait 5 albums à son actif pour qu'il prenne son. C'est une affaire bizarre, là, tu sais. Il a investi beaucoup d'argent dans un album. Il ne peut pas en faire 5 autres là, pour être capable de rentrer dans leurs critères, d'avoir plusieurs titres à diffuser. C'est que présentement, ces albums, ils sont collés dans le sous-sol chez eux. Fait que moi je les amène dans les événements, comme tu parlais tantôt, là, tu sais, je sens plus, là, j'en ai pas. Il est pas vendu ailleurs.
Alors, pour se procurer l'album, en attendant de trouver un distributeur, donc parce que j'ai cherché en ligne, il n'y a même pas moyen de l'acheter dans une boutique virtuelle, là,
Non, non, non. Amazon l'ont eu pendant un moment, puis je pense qu'il n'est plus disponible. Ce serait à vérifier, là, mais il me semble que non. Ça fait que non, c'est
Non,
dommage.
j'ai vérifié parce que effectivement sur Amazon, il est manquant, ouais.
Hein? OK. C'est dommage parce que cet album-là, bon, il prend de l'âge, là. T'sais, quand les gens, s'ils trouvent le moyen de le faire distribuer dans 2 ans, il y a déjà un droit d'un copyright là, qui va être comme passé date. L'album va avoir être un. T'sais, les gens aiment ça, la nouveauté. C'est toujours. Bon. Si tu ne parles pas d'un produit qui a été dessiné en 2000, ben 2020. Ça date déjà. C'est bête à dire.
Et ça a énormément de potentiel. Je veux dire, ça pourrait devenir une série
Ben oui.
avec plusieurs tomes, là. Vraiment. Donc, j'espère, si jamais il y a des gens curieux à l'écoute, encore une fois, la difficulté de mettre la main sur cet album-là, tu sais, je voudrais bien inviter les gens à vous joindre, mais encore là, même dans l'album, je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de coordonnées à proprement parler, il n'y a pas de boutique virtuelle. Puis bon, je sais aussi que l'enjeu, toi, quand tu fais de l'impression sur demande avec Amazon, tu n'as pas à te soucier de poster les exemplaires, de les imprimer, quoi que ce soit. Dans le cas d'un album qui est déjà imprimé, qui se trouve dans des palettes au beau milieu d'un sous-sol, ben là, les albums, il y a des frais de manutention, il y a l'idée que ben, c'est de la gestion. Ça implique de la gestion, d'emballer l'album, d'aller le poster.
Oui. Pierre le fait, là. OK, les coordonnées de la maison d'édition, là, quand quelqu'un peut le rejoindre, il le fait. Puis, en tout cas, il a trouvé le moyen que le coûtant d'emballage et tout soit vraiment pas élevé, là, mais ça demeure que, bon, ça, il faut le rejoindre. C'est à la pièce, là, tu sais, puis.
Alors, ce que je ferai pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, c'est que je mettrai dans la description du présent épisode, je mettrai le courriel de la structure éditoriale qui est SP Media, là. Comme c'est écrit dans le cartouche, alors je vais mettre cette information-là dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, les gens pourront, ultimement, s'ils le désirent, joindre l'éditeur pour convenir d'une entente afin de mettre la main sur l'album. Pour la suite des choses, Mario, qu'est-ce qu'on te souhaite? À part la santé, parce que ça, c'est important, qu'est-ce qu'on te souhaite d'arriver à outre arriver à concrétiser ton projet éditorial jusqu'en 2032, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre?
Oh, ben déjà, c'est pas mal, hein, si je m'arrange jusque-là.
Oui, mais en plus de ça, est-ce que sur ta liste d'auteurs de bande dessinée, là, est-ce qu'il y a des projets fous, est-ce qu'il y a des rêves, est-ce qu'il y a des trucs que tu dis, ah oui, en plus, ça, si je pouvais faire ça, là.
Ben, tu sais, regarde, j'ai commencé un autre album, là, tu sais, complètement, là, c'est du nouveau matériel. C'est un album fantastique science-fiction. Okay? C'est des courtes, en fait, c'est des nouvelles en BD. Puis, je suis quand même rendu à la page 37, 38. Okay? Au moins avoir la forme. Lui, je le fais en parallèle de tout le reste, là, parce que je travaille aussi présentement sur un album, sur un roman graphique, qui devrait paraître dans une couple d'années. Ça fait que les projets manquent pas, là, t'sais. Puis après mon album de science-fiction, il me reste deux choses importantes à réaliser. C'est que carrément une aventure policière qui se passe dans le futur, qui est toute écrite, que j'ai commencé à dessiner, que je vais recommencer parce que mon dessin est plus là, et puis la même chose, là, c'était bon. Mais j'aimerais bien le faire, lui. Puis, après ça, avoir encore la forme de faire le projet ultime. Quand j'ai commencé à m'amuser à faire du dessin chez moi, j'avais 12 ans, j'ai créé un personnage, un extraterrestre. Il s'appelait Charlie. J'ai passé ma vie à avoir envie que Charlie soit publié. Je l'ai même présenté à un moment donné aux humanoïdes associés et tout. Puis là, j'ai décidé de publier moi-même. Mais Charlie, c'est un projet d'envergure. C'est un gros machin. C'est vraiment très important. C'est un peu un Star Wars à ma façon. Là. Mais avant Star Wars, moi, mon scénario a été écrit. Puis j'aimerais être capable de le faire, d'avoir la forme de le faire. Puis mon Charlie, c'est une trilogie, c'est un triptyque. Il y a trois albums. J'aimerais avoir la forme de me rendre jusqu'à finir Charlie. Là, après, je serais bien, je mettrais mes deux pieds sur la patte du poil, là. Puis là, ça serait, je serais comblé.
Oui, mais te connaissant, je pense pas, d'une part parce que tu risquais de te brûler les pieds, mais d'autre part aussi parce que la passion est beaucoup plus vive que le feu qui serait dans le dit poêle. Moi, je suis convaincu, Mario, que après toutes ces années-là, on sent toute cette passion-là qui t'anime. Et c'est beau d'entendre ça. Je tiens à te le dire, moi, je trouve ça très touchant et très excitant aussi. Alors, je te souhaite, en fait, je te souhaite même pas de te rendre, je te souhaite de dépasser les pieds sur le poêle. Je te
OK,
souhaite de continuer à ta table à dessin, à éprouver toujours le même plaisir communicatif que tu as de faire de la bande dessinée. Donc, je te souhaite vraiment, je te souhaite la santé parce que l'inspiration, c'est vraiment pas un problème.
non, vraiment pas.
Mario Malouin, merci beaucoup de ton temps. Je t'ai déjà beaucoup trop retenu. Allez, retourne à ta table à dessin.
Je vais prendre cette fois-ci, j'en mettrai Jean-Dominique. Ça a été un grand plaisir.
Porte-toi bien, mon cher.
Bye.
Pour suivre Mario Malouin, rendez-vous au facebook.com/mario.malouin.2025. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt.